C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet ce matin pour les commissaires, le rapport de la coroner Kamel hier concernant un événement qui s'est produit en 2018. C'était un ado en crise avec un lourd historique de problèmes de santé mentale qui est armé et qui se trouve donc en pleine nuit, en état de crise. Les policiers interviennent. La séquence des événements dure à peu près 2 minutes. Et il y a un policier qui fait feu en sa direction. Le jeune homme est touché à la tête et malheureusement, il est décédé. Et la coroner dit qu'il faut absolument une meilleure formation pour les policiers. Est-ce que de modifier la formation ou de l'augmenter, ça peut éviter ce genre de drame? Luc?
Ben oui, bien sûr, mais la question, c'est de la faisabilité. C'est-à-dire que on a beaucoup de difficultés à former les policiers, même sur le port des armes, même sur l'utilisation des armes. Les statistiques sur les gens qui suivent la formation, c'est faible, c'est très faible. D'ailleurs, le nombre de policiers qui vont utiliser une arme dans leur vie, c'est extrêmement faible. Ils la portent, mais ils l'utilisent presque jamais dans toute leur carrière. Il y a très peu de policiers qui utilisent leur arme. C'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que si toutes les méthodes qu'on devrait introduire régler ce genre de situation-là, parce que l'intervention a duré juste 2 minutes, parce qu'il a été touché à la tête après 2 minutes, mais c'est vrai qu'il avait une arme qu'il a balancée dans tous les sens et donc dans la direction des policiers, mais on a su par la suite que c'était simplement un fusil à pression, air pressurisé, comment ça s'appelle?
Air comprimé.
Néanmoins, les policiers avaient raison d'avoir peur puis avaient raison de vouloir se protéger, mais est-ce qu'ils auraient pu utiliser d'autres types d'armes? Il y a les bombes, les grenades assourdissantes, il y a évidemment toutes les armes électriques comme le taser, il y a des armes chimiques, le gaz de Cayenne, c'en est juste une, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi des arbres, des mousses chimiques immobilisantes. Il y a des dizaines d'arbres non létales. Moi, je pense que les policiers ne sont pas équipés avec le meilleur outil pour faire ce genre d'intervention-là. Par contre, les policiers, quand à chaque fois que j'ai dit ça, moi, me sont venus en me disant « Oui, mais attends une minute, c'est dangereux pour nous. » Il y a plusieurs cas où il y a un gars armé d'un simple couteau, un tournevis, qui fonce vers le policier. On tire dessus, mais il est tellement dans une phase d'intensité qui fonce quand même sur le policier. Donc, il arrive des situations où les policiers se sentent en danger. Mais est-ce que ce sont toutes les situations? Puis est-ce que d'autres armes pourraient être étudiées? Là où le bas blesse, c'est la formation, le temps de formation puis l'équipement que ça prendrait pour chaque policier.
Ouais, mais derrière cette tragédie, parce que c'en est une, hein, qui a marqué la communauté de Lac-Brome, une communauté de plus de 5600 personnes, la famille, les policiers également qui ont été impliqués, c'est certainement un événement traumatisant. La coroner a dit que cette mort aurait pu être évitée. Les parents ont engagé une poursuite au civil de près de $700 000 par rapport à ce qui s'est passé, parce que eux se questionnent sur le travail des policiers, justement. Mais derrière ce drame, il y a deux grands enjeux. La façon dont les policiers sont préparés pour faire face à ce genre de situation et les services en santé mentale qui sont ou non disponibles pour des jeunes comme le jeune Riley. Pour ce qui est des policiers, moi, ce que j'ai compris en faisant mes recherches, c'est que la Sûreté du Québec a déjà mobilisé ses troupes et depuis 7 années, on offre à l'école de police de Nicolet une nouvelle formation qu'on appelle ROOT, R-O-O-T, respiration, observation, obstacle, barricade et temps de distance. Ce sont deux moniteurs en emploi de la force, Dominique et Nicolas Jobin, qui ont créé cette formation justement pour faire face à des cas comme ceux de Riley. Et essentiellement, l'intervention est basée sur un nouveau paradigme, c'est-à-dire que le temps maintenant devient l'allié des policiers, parce que dans le passé, lorsque les policiers intervenaient, ils avaient l'impression que plus rapidement ils intervenaient, plus ils étaient en contrôle. Là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est non, le temps, souvent, l'intervention va être plus longue, mais ça va permettre de désamorcer une crise, ça va permettre de procéder à ce qu'on appelle dans le jargon policier, une désescalade de la tension. Et ça, c'est une chose. L'autre chose qui a énormément changé dans ce genre d'intervention, c'est qu'avant, on disait à la personne qui était dans les policiers, ben, tu dois t'adapter. C'était à la personne à s'adapter aux policiers, à répondre aux ordres des policiers. Là, maintenant, c'est le policier ou les policiers qui sont appelés à s'adapter au cas auquel ils sont confrontés. La GRC fait la même chose. Elle a mis sur pied depuis un certain nombre d'années une formation qui ressemble à celle, modèle d'intervention pour la gestion d'incidents, de formation qui ressemble à celle de la Sûreté du Québec. Maintenant, est-ce que d'autres corps de police vont embarquer, parce que cette formation n'est pas obligatoire pour l'instant, Est-ce que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la rendra obligatoire? C'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que, parce que là, on parle du coroner, du rapport de la coroner Kamel, mais il y a d'autres rapports qui ont été, qui ont recommandé ce type d'intervention. Puis vous le savez comme moi, les problèmes de santé mentale, les défis liés à la santé mentale dans la gestion policière au quotidien, c'est quoi? Ça fait partie maintenant de leur réalité.
Luc, il y a deux paradigmes qui font que ça se produit, que ce type d'incident dramatique se produit. Le premier paradigme, c'est qu'on doit arrêter la personne. Tu vas sur une intervention, le gars, il est en crise, il a une arme, il se promène sur la rue, tu dois l'arrêter parce qu'il est dangereux pour la société. Il y a un groupe qui s'appelle le Police Executive Research Reform qui est aux États-Unis qui a dit, ben, si on se disait, on n'a pas besoin de l'arrêter, c'est-à-dire, si je me tiens à 800 pieds ou 600 pieds de lui, puis on le suit. Puis jusqu'à temps qu'il se tanne. Puis quand il va moins intervenir, quand il va être rendu un peu plus calme, là, on intervient. Donc, le but n'est pas...
Mais en ville, tu avais oublié ça?
Oui, en ville, non. Bon, mais là, ça s'est passé à Lac-Brome. Il était sur la
ouais,
route.
Mais c'est une rue résidentielle, commerciale. Puis c'est en pleine nuit, là, mais...
Okay, oui, c'est ça, exactement.
Est-ce qu'on avait besoin de l'arrêter, là, en deux minutes? T'sais, prendre le temps, l'encercler, est-ce que propose ouais. le Police Executive Research Reform? L'autre affaire, c'est cette idée que le pistolet est la meilleure arme pour les Américains, pour un policier. Un pistolet dans une situation où tu t'en sers souvent, c'est une bonne arme. Un pistolet dans une situation où tu dois, le seul fait que tu le portes génère une possibilité que tu puisses utiliser, donc ça crée de l'autorité, c'est certainement bon. Ouais. Mais imagine-toi n'importe quel corps de métier dans le monde où tu as un outil dont tu ne te sers jamais. Tu t'en sers presque jamais, une fois dans ta carrière.
Non, mais moi, je pose cette question-là. C'est une arme qui tue, là. C'est un feu.
Ben justement.
C'est un pistolet.
Il y a environ 200 armes non létales disponibles sur le marché. Est-ce que c'est vraiment le pistolet qui est la meilleure arme pour les policiers, pour tous les policiers?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement de culture qui s'opère lentement, mais sûrement au sein des forces policières. L'autre chose, puis je vais prendre deux secondes pour le dire, c'est l'aspect lié à la santé mentale, parce que la coroner aussi a formulé des recommandations sur la façon de mieux accompagner des jeunes comme Riley qui ont été confrontés à une souffrance incroyable. Et c'est lui qui a appelé le 911. C'est ça qui est assez particulier. Et je lisais avant d'entrer en onde que le suicide au Québec est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 10 à 24 ans et 70 % des problèmes de santé mentale apparaissent avant 25 ans. C'est incroyable. Je ne sais pas si le Québec est distinct des autres juridictions sur la planète quant à ce genre de réalité, mais c'est drôlement préoccupant lorsqu'on sait que ça prend souvent jusqu'à 2 ans avant de voir un psychologue. Parce que ce qui est aussi dit par la coroner, c'est que la mère, les parents étaient impuissants. Ben c'est ça.
C'était quand même c'est un élément important, ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas retrouvé dans le milieu de la rue 1 h du matin avec une arme comme ça. Là. Pas de suivi, les portes tournantes, pas de ressources. Ça vient contribuer à...
Pas de psychologue d'expression anglaise non plus dans la région.
Exactement, c'est ça. Bon, et c'est sûr que le défi est très grand. On est en manque de ressources. Puis vous savez, comme moi, quand la coroner appelle les intervenants à se parler entre eux, à travailler entre eux, on s'entend que dans notre merveilleux réseau de la santé, c'est pas toujours évident. Mais c'est un cas qui nous permet de réfléchir à la façon dont on peut améliorer les choses.
Merci beaucoup. Au retour de la pause, deuxième sujet, on va parler des résultats qui sont pas complets encore, là, parce qu'on poursuit des décomptes, mais des élections de mi-mandat aux États-Unis.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on poursuit toujours le dépouillement du scrutin aux États-Unis. D'ailleurs, ça prend du temps, mais Charles-Philippe David l'expliquait assez bien ce matin, là. C'est du décompte manuel, puis on veut pas se faire accuser de truquer l'élection. On sait que ça peut voler bas rapidement. Mais en gros, on se retrouve avec le Sénat pratiquement égalité et une bonne avance des Républicains à la Chambre des représentants. Nathalie, tes commentaires?
Ben Biden craignait le chaos. Le pays, on peut dire, en ce lendemain d'élection de mi-mandat, peut souffler. Les Américains peuvent aspirer à une certaine stabilité, je dis bien certaine, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024, parce que les États-Unis demeurent un pays qui est divisé, un pays sous tension. Et les résultats ont démontré que les Américains tiennent à la démocratie. Le message transmis par Joe Biden, Barack Obama, par les démocrates, a eu un écho auprès des Américains. Et je trouve que les électeurs ont fait preuve de beaucoup beaucoup de lucidité compte tenu de l'apocalypse annoncée par plusieurs analystes et commentateurs qui anticipaient une vague rouge, une vague républicaine. J'ai entendu hier Joe Biden s'adresser aux Américains. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir continuer, poursuivre ce qu'il a commencé. Il veut redonner confiance aux Américains, créer des emplois de qualité et améliorer les soins de santé. Savez-vous qu'un des enjeux aux États-Unis, c'est d'obtenir de l'insuline à 35 $ par mois? Je l'écoutais hier, je me disais, waouh, on est drôlement chanceux au Québec. C'est sûr que notre système de santé est tout croche, mais quand même, lorsqu'on se compare, on se console. Alors, c'est donc la continuité, la stabilité pour l'administration de Joe Biden. Et pour le Canada, c'est une excellente nouvelle parce que ça nous met d'une certaine façon à l'abri des perturbations qu'on a connues avec Donald Trump. La perturbation la plus importante, rappelons-nous, était celle liée au renouvellement de l'accord sur le libre-échange avec les Américains. Alors, vivement des relations plus conviviales avec Justin Trudeau et Joe Biden. Alors, également, le monde a dû souffler aussi, pousser un soupir de soulagement parce que cette victoire, selon moi, c'est le résultat. C'est une police d'assurance pour le monde qui compte sur les États-Unis pour réfréner les ardeurs de la Russie et de la Chine. Alors, pour moi, c'est une excellente nouvelle ce qui s'est passé cette semaine.
Luc, Nathalie, tu dis qu'aux États-Unis, on a de la misère à avoir de l'insuline à 35 $ par mois. Nous autres, au Québec, on a de la misère à avoir un rendez-vous avant 35 mois.
Oui, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais c'est quand tu vois.
Tout à l'heure qu'on a un peu d'amélioration à faire.
Quand ouais, même, c'est sûr. Donc, je reconnais.
Mais toujours est-il que Biden a déclaré que c'était la meilleure élection pour les démocrates depuis 40 ans. Donc, oui. Parce que l'élection les midterms, là, c'est presque toujours lorsqu'il y a un président en poste, là, contre le président en poste. Et les démocrates ont eu beaucoup de mauvaises expériences dans le passé avec Jimmy Carter, Bill Clinton, etc. Et Obama qui n'a pas pu faire grand-chose. Par contre, les républicains, c'est pas une vague. Puis les républicains, ce qui est important, c'est que, pas simplement le nombre de votes, c'est que les élus qui considéraient que l'élection était truquée, l'élection de Biden, et qui prêtait à modifier les règles et les règlements dans leurs États pour s'arranger pour que plus jamais les républicains ne perdent, la majorité de ces élus-là ne sont pas passés. En fait, le New York Times a fait une analyse où il y a 300 élus qui ont remis en cause d'une façon ou d'une autre l'élection américaine, qui ont été élus. 300 républicains à divers postes de leurs États, ou du Sénat ou du Congrès. Mais là-dedans, il y en a seulement 30 qui avaient carrément remis en cause l'élection. Mais ça, les 7 ou 8 qui avaient dit qu'ils allaient prendre action pour plus jamais que ça se reproduise n'ont pas été élus, ou les deux qui ont été élus l'ont été dans des endroits qui sont tellement républicains que finalement ça change rien pour le vote. Donc ça, c'est une énorme victoire. Trump a le bec à l'eau. Il s'attendait à ce que ces gens-là menottent le système électoral pour que lui ait un free pass quand il allait se présenter. Ça va pas se produire. C'est la bonne nouvelle. Les républicains sont assez forts au Sénat et au Congrès pour bloquer les budgets, bloquer l'augmentation de la dette, bloquer le projet de Biden de 100 milliards d'investissements, notamment dans l'énergie verte, pour empêcher la nomination de qui que ce soit, que ce soit des conseillers ou que ce soit des juges. Le Sénat peut faire, si le Sénat n'est pas majoritaire pour les démocrates, ils vont pouvoir bloquer tout ça. Ils vont pouvoir passer des règles qui leur sont chères. Par exemple, renverser les lois sur la limitation des explorations pétrolières. Ça, c'est assez gros. Drill, baby, drill. Ils vont pouvoir passer le Parent Bill of Rights, le règlement qui va permettre aux parents d'avoir un pouvoir absolu sur l'éducation, avoir toutes les informations concernant leurs enfants, notamment. Mais tout ceci est moins grave que ce à quoi on s'attendait. Dans n'importe quel pays du monde, ça serait... Ah, est-ce que la guerre en Ukraine, ça, on peut se poser la question. Est-ce que la guerre en Ukraine va faire l'objet d'une résistance du Congrès? Moi, je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de dissensions chez les républicains, et dans les domaines pour lesquels il y a dissension, ils ne seront pas assez puissants pour bloquer, comme par exemple la question d'immigration et la guerre en Ukraine.
Mais tu penses pas, en fait, tu pensais pas qu'il y a aussi un mouvement de fond qui est encore là? C'est-à-dire je regardais hier, là, sur Fox News, je pense, une des candidates...
Écoute Fox News, toi?
Certainement. Faut entendre ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une petite blague, il disait que Mme Pelosi serait nommée ambassadrice en Italie. T'sais, ils n'ont pas arrêté de... Mais Fox News, il raconte à un moment donné qu'il y a, je pense, une ou deux personnes qui ont été élues. Leur fait d'armes, c'est de prendre d'assaut les écoles pour aller vérifier ce que les profs enseignent sur les genres. Tu sais, ce coup,
ils vont le faire.
Ça là, moi j'ai pas l'impression que ça diminue puis que.
Hier, il a annoncé qu'il allait continuer.
Ben c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est une grande victoire de la démocratie peut-être là.
Pas tant que ça là. T'sais, non, c'est ça. Tu sais, dans la liste de ce qu'ils vont pouvoir faire et bloquer et continuer, là, il est énorme.
Puis DeSantis là, c'est une victoire majeure en Floride. C'est un vrai.
Il est anti-Trump. Il va se présenter contre Trump, Mr. Trumpiste dans l'âme.
Ouais, en tout cas, au niveau de certaines valeurs, c'est sûr.
Mais Donald est de mauvaise humeur voyant la victoire éclatante de DeSantis. Il y a également le gouverneur de la du Texas, Greg Abbott, qui pourrait devenir un adversaire de Trump. Mais la chose dont on entend peu parler, et Biden l'a souligné hier, c'est qu'ils ont réussi, malgré les tensions entre démocrates et républicains, à adopter 200 projets de loi. Imaginez, depuis que Biden est en poste. L'autre chose, Biden tend la main aux républicains. Il veut même offrir aux deux présidents et du Sénat et de la Chambre des représentants de l'accompagner dans certains de ses déplacements sur la planète pour qu'ils puissent comprendre conscience à quel point c'est important de se liguer face à une planète qui est de plus en plus sous tension. La Chine, là, c'est le géant qui dort. Ça fait tellement de longtemps qu'on le dit, mais les tensions sur le plan politique entre la Chine et les États-Unis n'augure rien pour la suite des choses. Et là, je veux parler rapidement de Trump parce que il s'est passé des choses fort intéressantes dans cette élection, comme l'élection de Maxwell Frost, 25 ans, le plus jeune élu au Congrès. Et c'est une histoire extraordinaire, un parcours merveilleux. Il a déclaré « Mon travail n'a jamais été à propos de moi, il était à propos de nous ». Imaginez, et 25 ans, c'est l'âge minimal pour faire son entrée au Congrès. Et notre ami Donald, qui a fait de son du Make America Great Again son mantra, mais plusieurs analystes l'ont affublé d'un nouveau titre, celui de Biggest Loser hier. Biggest Loser, je trouvais ça très bien. Et son journal préféré, le New York Post, a titré hier Trumpy Dumpty pour Humpty Dumpty. Et là, il se demande si Donald Trump peut toujours se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Alors, c'est une gifle. Moi, je jouis personnellement parce que je trouve que ce type-là, c'est un malade. Là. Je veux dire, avec tout ce qu'il a fait, accusé de fraude, les membres de sa famille, je trouve ça absolument formidable. J'ai bien hâte de voir s'il annoncera sa candidature la semaine prochaine parce que c'est prévu pour le 15 novembre à sa résidence de Mar-a-Lago. Je ne sais pas si vous avez une projection à faire de ce côté-là. Est-ce que vous pensez qu'il va ou pas?
Moi, je pense qu'il va y aller.
Ben oui, il n'y a rien d'autre dans
le jeu. Puis, je le compte pas pour battu, là. Il a encore fait élire pas mal de monde. Il a perdu des plumes, là. D'ailleurs, il a dit, en parlant de DeSantis, j'en sais tellement sur lui.
Oui, il menace de faire des révélations.
Il y a peut-être sa femme qui en sait plus que moi, mais moi, j'en sais pas mal. Écoute,
prends-tu un sale?
Non, mais écoute, c'est des campagnes, là, en Géorgie, où t'as l'ancien joueur de football, Walker, là, qui se présente contre un pasteur. Les deux ex-conjointes de chacun des candidats sont sorties publiquement pour dire du mal de leur ex.
C'est pas possible.
L'ex de Walker, l'ex du pasteur.
Ben, écoute, c'est une télé-réalité.
Puis, tu sais, c'est des accusations de toute nature. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.